Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est l'histoire du maire d'une petite commune de même pas 4000 habitants qui a eu la bonne idée. Écoutez bien et prenez-en de la graine. Nous sommes en septembre 2016 en Charente-Maritime, à Aigrefeuille-d'Aunis, une petite ville avec une page Wikipédia longue comme le bras. Gilles Gay, le maire, est d'hiver droite et retraité agricole. Son problème à lui, c'est la cantine scolaire, ou plutôt les enfants qui y mangent et y font beaucoup trop de bruit à son goût. Pour constater cette véritable plaie pour la commune, le maire a d'abord l'idée d'installer dans la cantine un phonomètre, c'est-à-dire un appareil qui mesure le niveau sonore dans un espace donné. 80 décibels, c'est la limite maximale autorisée dans la restauration collective, explique-t-il à France 3 Poitou-Charente, en s'offusquant d'avoir lui fait des relevés qui montent jusqu'à 100 décibels. Et c'est là qu'il a une vision, un éclair, une épiphanie. Au lieu d'insonoriser la pièce par exemple, d'ouvrir une deuxième salle de cantine ou encore d'étaler les horaires des repas des enfants pour qu'ils soient moins nombreux dans la cantine, Gilles Gay demande à un policier municipal en uniforme avec un sifflet de venir chaque jour à l'heure du déjeuner dans la cantine pour y faire régner le calme. Oui, un flic, enfin un agent de police à l'école pour que les enfants la bouclent enfin. L'opposition municipale s'en émeut et s'en ouvre au quotidien Sud-Ouest qui relaie l'affaire. Mais le maire ne se démonte pas et persiste à se réjouir du calme enfin retrouvé à coups de sifflet. Le bulletin municipal annonce néanmoins la fin de l'expérience à la fin du mois d'octobre, mais il insiste sur le fait que c'était quand même une super bonne idée et que la cantine a retrouvé son calme. Tout de suite dans les pieds sur terre, la cantine comme un lieu de crispation sociale, identitaire, sécuritaire, gastronomique et phonique. Deux autres histoires de cantine, c'est par Rémi Dibowski-Douatte sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
À la cantine, ce midi, on a mangé des brocolis pas bons, du coup, je ne les ai pas mangés. Et un autre jour, il y avait de la ratatouille avec des courgettes. Et comme j'aime pas la ratatouille et les courgettes, et Christophe, un adulte, il a dit « Non, tu manges ta ratatouille, au moins tu goûtes. » Et en fait, j'ai menti à Christophe, j'ai dit « Oui, j'ai goûté. » Et en fait, lui, il a dit « Très bien, allez, maintenant tu veux manger ce que tu aimes. » Les animateurs nous disent « Où on va s'installer ?» Et parfois, c'est à côté d'Oumou que je vais m'installer pour lui demander... Par exemple, si ça se passe bien chez elle et tout, tu vois. Un jour, elle était venue à l'anniversaire de Mélusine. Elle n'avait pas amené de cadeau à Mélusine, parce que c'était son anniversaire, parce que elle lui avait dit « Ma maman, elle est pauvre. » Et moi, je la crois. Et du coup, après, elle s'est fâchée, Mélusine. Après, elle s'est excusée. Parce que quand même, il ne faut pas se fâcher contre des gens qui sont pauvres, tu vois. Voilà, parce que ça se voit. Moi, je trouve que ça se voit. Parce qu'en fait, je ne suis pas sûre qu'elle mange. Voilà. Parce que je pense que ce qu'elle mange à la maison, je pense que c'est pas bon. Tu vois, je pense. Parce que quand elle passe devant ce qu'on va manger, et ben elle est toujours contente, elle sourit à chaque fois. Et moi, je suis la tête parce que Ça a l'air pas bon. Et je pense qu'elle préfère la cantine que chez elle. Tu vois?
C'était en 2012, j'avais quitté mon emploi pour créer ma société, donc j'étais donc au chômage, j'étais inscrit au Pôle emploi avec un statut de créateur d'entreprise, et les premiers mois de 2012 étaient consacrés pour moi, je dirais, pas essentiellement, mais en tout cas une bonne partie, à la création de mon entreprise. Et ça coïncidait aussi à un changement dans la vie familiale, puisqu'on préparait la rentrée scolaire de notre premier enfant, de notre fille, en maternelle, en petite section. Donc l'inscription s'est faite, je dirais, le plus simplement du monde, hein, comme des millions de familles. On s'est rendu à la mairie, on a fait l'inscription à la fois à l'école, au service périscolaire. Donc service périscolaire, on entend principalement les cantines, mais tout ce qu'il peut y avoir également autour. Et là, donc, nous sommes en mairie, et au moment de l'inscription en cantine, on nous pose forcément un tas de questions sur la famille, sur les enfants, et pour les allergies, par exemple, de notre enfant. Et on nous pose des questions qui peuvent surprendre un peu plus. On nous demande par exemple quelle est la situation professionnelle de la famille, savoir si nous sommes chômeurs ou si nous ne le sommes pas, ce qui pouvait surprendre parce qu'il n'y a pas de lien a priori direct avec l'école, et également des questions sur la santé, par exemple si les parents sont en longue maladie ou pas, comme quoi ce serait peut-être un critère pour certains services. Et pour ainsi dire, on est assez rapidement passé à autre chose. En période de création d'entreprise, on avait certainement d'autres choses en tête. Il y avait les enfants, il y avait pas mal de choses. Très rapidement après cette inscription, on nous informe effectivement que l'inscription à l'école s'est faite et sans difficulté. Et en revanche, notre fille, qui serait inscrite à partir de septembre, n'aurait pas le droit d'aller à la restauration scolaire. Un des parents est au chômage. La conséquence directe est que l'enfant ne peut pas s'inscrire à la restauration scolaire. Et après vérification, puisqu'il y a actuellement une part de surprise, après vérification, la réglementation municipale dit effectivement que si un des parents est au chômage ou si un des parents est en longue maladie, à ce moment-là, l'inscription en restauration scolaire est impossible pour les enfants. Donc c'est la surprise, et très vite après la surprise, c'est la colère. On est parents. On fait cette première inscription dans ce qui nous semblait tout de même une étape importante de la vie. C'est l'accueil de l'école républicaine, ce sont les premiers pas dans l'accueil. Et ces premiers pas commençaient par une exclusion de restauration scolaire. Alors c'est forcément quelque chose qu'on prend extrêmement mal quand on est parent, c'est extrêmement douloureux. Et puis on s'imagine aussi la rentrée, on s'imagine notre fille à l'école. Et on se dit que si c'est dur pour les parents, c'est certainement encore plus dur pour les enfants. On s'imagine notre fille qui va voir tous ses camarades aller à la cantine et pas elle. On imagine en fin de matinée toute la classe se lever, se rendre au réfectoire, et notre enfant et peut-être un, deux, trois autres rester à la porte, et les copains qui disent ah bah tu viens pas manger avec nous, non je peux pas parce que mon père, ma mère sont au chômage par exemple. La restauration scolaire, c'est la socialisation, c'est l'apprentissage de règles en société, c'est l'apprentissage de la nutrition, l'apprentissage de l'hygiène, de la propreté par exemple. C'est extrêmement éducatif et on ne peut pas priver les enfants de ce vecteur éducatif en fonction de ce que les parents ont fait ou de ce que les parents n'ont pas fait ou ce que les parents peuvent subir. Donc forcément nous sommes face à ce que nous ressentons comme une extrême injustice. Et nous nous renseignons, nous nous sommes renseignés sur la réglementation municipale, et puis on a aussi poussé les recherches un petit peu sur les communes autour, et puis les recherches sur Internet aidant, savoir un petit peu ce que prévoyait la loi et ce que prévoyaient les autres communes en France. On s'est rendu compte de plusieurs choses. Premièrement, c'est qu'il y a un nombre considérable de communes qui ont ces mêmes pratiques, à savoir qui sélectionnent, même si le terme est un petit peu brutal, les enfants en fonction de la situation professionnelle des parents, et qui disent que la restauration scolaire dans la commune est réservée aux enfants dont les deux parents travaillent. Donc on s'est aussi renseigné pour savoir si ce pouvait être légal. Et on s'est rendu compte que déjà c'était totalement illégal, c'était discriminatoire, mais en plus que les tribunaux s'étaient prononcés à plusieurs reprises sur ces sujets et systématiquement avait condamné les communes en disant c'est illégal, c'est discriminatoire, le règlement est annulé et ces critères discriminatoires ne peuvent pas avoir lieu dans une restauration scolaire d'une commune. Donc j'ai écrit tout simplement au maire en lui rappelant que les dispositions étaient illégales, qu'elles étaient discriminatoires, que les tribunaux avaient déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce genre de discrimination, et je lui ai demandé de mettre fin à ces discriminations, c'est-à-dire de modifier la réglementation municipale pour qu'elle respecte la loi et que tous les enfants, quelle que soit la situation des parents, situation professionnelle, situation de santé, puissent accéder à la restauration scolaire. Donc j'ai attendu cette réponse qui ne fut pas très longue à venir et dans laquelle j'avais lu un peu de dédain pour l'expliquer ce que je voyais entre les lignes. La mairie me disait monsieur, cette réglementation municipale, elle est illégale, on le sait, mais on ne changera rien. En discutant autour de moi, je me suis aussi rendu compte que la très très grande majorité des familles baissaient les bras. Ils étaient devant un mur, ils se disaient, en face de moi, il y a la mairie, ils ont les moyens, ils ont les avocats. Si jamais je me plains et je les attaque, du coup, j'aurai plus de place en crèche, j'aurai plus de restauration, la mairie va m'en vouloir. Et beaucoup de parents sont soit dans la crainte de représailles directes ou indirectes de la mairie, ou soit se disent, je sais pas faire, parce que saisir, prendre un avocat, c'est cher, forcément la commune va en avoir un bon, ils vont gagner, ça va me coûter des milliers d'euros que je vais payer. Et on est dans cette situation de blocage où on a un texte discriminatoire, on a un texte illégal, tout le monde le sait, mais il ne se passe rien et continue d'être appliqué dans notre commune comme ailleurs. Donc j'ai aidé ses parents et à chaque fois l'histoire qu'ils me racontaient, c'était toujours la même chose, c'était une mairie qui se présentait pleine de bonnes intentions et qui expliquait « oui, je sais que c'est illégal, mais vous savez, si j'accueille plus d'enfants, ça va coûter cher, donc du coup j'en accueille moins, et si on accueille moins, il faut les trier, et si on les trie, pourquoi pas refuser les enfants dont les parents sont au chômage ?» Après tout, ces enfants, ces parents au chômage, la plupart du temps, ils l'ont voulu être au chômage, ils ont que ça à faire, donc ils peuvent s'occuper des enfants, ils n'ont pas de recherche, la vie est belle pour eux. Donc du coup, on va leur couper l'accès à la restauration scolaire. Et c'est vraiment ce coup qui était avancé. Et je crois que les maires qui ont vraiment connaissance que ces dispositions discriminatoires sont illégales, continuent de les appliquer en disant « il n'y a rien à craindre, personne ne m'attaquera, il faudra faire avec ». Donc on a décidé de ne pas faire avec et de porter l'affaire en justice. Donc j'ai donc saisi le tribunal administratif de Versailles pour que cette réglementation municipale soit annulée. Le juge s'est prononcé, nous étions arrivés au mois de juin, et en juin 2012, le juge s'est prononcé, a condamné la commune et a rappelé que cette réglementation municipale était illégale et qu'elle était également discriminatoire. Ils sont condamnés mi-juin, et fin juin, il y avait de la place pour tout le monde. Ils n'ont pas rajouté de table, ils n'ont pas tiré les murs, il y avait de la place. On s'aperçoit que même ceux qui expliquent devant le juge que vraiment, vraiment, ils voudraient, mais qu'ils ne peuvent pas, en deux semaines, ils trouvent des solutions, et sans changer les locaux, ils arrivent à accueillir tout le monde.
France Culture, les pieds sur terre.
Mais en fait, à la cantine, tout n'est pas de la très bonne qualité. Il y a du camembert pas bon. Enfin, je pense que c'est du camembert. Ça ressemble, mais peut-être que c'est pas du camembert. Ah si, il y a du Saint-Nectaire. Mais du pas bon. Enfin voilà, c'est pas bon, c'est industriel. Les compotes, je pense qu'elles sont industrielles. Mais par contre, il y a du pain de campagne et je pense qu'il est aussi industriel. En plus, il n'est pas cuit. Je pense qu'il a été cuit en 2 minutes. Ce truc-là, berk. Il n'y a que l'eau qui est bonne à la cantine.
Ce qui arrive assez rarement, presque jamais, le dessert, l'entrée et le plat sont bons. Ça arrive une fois par an. lors du repas de Noël. Ou deux, parce qu'une fois, c'était pour l'Euro 2016 l'année dernière. Bah, il y avait un plat spécial Euro 2016. Et donc, quand tout est bon, on a plus faim après. Mais la plupart du temps, bah, on a assez faim après. On a récréation, on a faim. Le pire, c'est l'espèce de brandade de morue avec du liquide qui sort un peu. Et quand au début, quand tu prends, c'est de la purée. Et sur les côtés, il y a un peu de liquide qui sort de la purée. C'est du liquide un peu vert qui sort. C'est horrible.
Les épinards à la crème avec des œufs. Les œufs, ils sont durs. On peut presque pas les couper avec un couteau. L'intérieur, c'est pas jaune, c'est presque vert. Et les épinards, c'est moi, une fois, j'ai failli vomir à cause d'un épinard. Des fois, quand on arrive à la cantine, il y a les entrées qui sont déjà dans nos assiettes. Par exemple, il y a une salade dégueulasse avec des bouts de pommes, du fromage et une sauce. Mais c'est immonde. Elles sont directement dans l'assiette, au milieu de votre assiette, un gros pâté. Et après, même s'il y a un repas hyper bon, genre des pâtes avec des steaks hachés, mais tu peux pas manger parce que après les plats ils sont, enfin il y a de la sauce dans les plats.
C'est comme quand il y a des plats dégoûtants, on mange que du pain, ouais. Et c'est tout. Et même on a même pas de beurre, et même on a même pas de sel, et on a même pas de poivre, on peut même pas assaisonner nos trucs.
Est-ce qu'il y a des gens qui mangent pas de porc?
Oui, il y a des plats spéciaux et la plupart du temps c'est meilleur. Ah ben oui, à un moment il y avait des espèces de grosses saucisses et eux ils avaient des petites saucisses de poulet un peu. Pas mal.
Qu'est-ce qu'ils mangent les menus sans porc?
Bah, genre ceux qui mangent pas de porc. Bah, le gars il dit je mange pas de porc et il prend un menu sans porc.
Et pourquoi tu dis pas je mange pas de porc si c'est meilleur?
Bah, il y en a pas beaucoup et je me dis que si je dis ça, il y en aura un qui en aura pas après.
Je m'appelle Lenka Bural. J'habite Uzest, un petit village à 40 minutes de Bordeaux, dans le sud de Gironde. J'ai deux enfants. Ils sont scolarisés, une sur les Nantes Bazas, et mon petit dernier qui est à l'école maternelle de Pont-Péjac. Donc, cette histoire a commencé le jeudi 15 octobre 2015, quand j'ai assisté à la réunion de rentrée à l'école maternelle de Pont-Péjac. Les maîtresses ont présenté vite fait la partie pédagogique. On allait se séparer dans les deux classes quand un parent d'élève demande pourquoi il y a des repas de substitution à la cantine. Elle ne comprend pas, elle voudrait débattre de cette question. Les maîtresses ont dit, bon, ben écoutez, là, c'est pas le sujet. Nous, on gère que la pédagogie. Donc ça s'était arrêté là. Et arrivé à la fin de réunion, cette dame dit, pour les enfants qui mangent pas de porc, on enlève l'aliment de substitution. C'est pas très grave pour quelques enfants, on l'enlève, c'est pas grave. Les parents, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à venir chercher leur enfant. Ils ne le mettent pas à la cantine. Et là, la SEM et la maîtresse disent, mais même pour un enfant, il faut le faire, même pour un enfant. Et il y a le débat, elle continue sur sa lancée, cette dame, en disant que les musulmans, c'est très bien en ville, à la campagne, c'est inadmissible, et qu'on n'avait pas à le faire, l'école était laïque et tout ça. Et elle nous dit, moi je suis d'origine portugaise, je vais demander à ce moment je la morue. On rentre, les enfants, mes enfants rentrent de vacances de Toussaint le lundi 2 novembre 2015. D'accord? Le lundi de la rentrée, il y a du porc à midi. Et mon fils rentre de l'école en me disant, « Maman, moi j'ai eu droit qu'à la ratatouille, au pain et au yaourt. » Ratatouille, yaourt, pain. Sans qu'on soit prévenu. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir la cantinière, l'ATSEM, les directrices d'école, les maîtresses, et je dis, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et bien, on m'annonce clairement que la cantinière de Pont-Péjac a reçu l'ordre de ne plus donner d'aliments de substitution. Parce que la dame qui a sorti ses propos lors de la réunion du jeudi 15 octobre, pendant les vacances de la Toussaint, elle est allée voir tous les élus. Elle est allée voir le maire de Pont-Péjac, le maire d'Uzest et le maire de Lignan. J'ai fait intervenir, je suis allée voir tous les gens concernés. Je leur ai dit, attention, vous prenez cette décision d'arrêter l'aliment de substitution suite à des propos racistes, islamophobes, à l'école, suite à la réunion du 15 octobre. J'ai fait attention, je ne vais pas laisser passer. Et suite à ça, l'aliment de substitution est revenu, comme par magie. Donc je me suis arrêtée là. Voilà. L'année se passe tant bien que mal. Le 6 juin 2016, suite à une réunion entre le regroupement pédagogique et les parents d'élèves, on apprend que l'aliment de substitution sera supprimé à la rentrée scolaire 2016-2017. Qu'est-ce qui se passe? Suite à ça, j'envoie des courriers. Et je veux savoir pourquoi. On ne nous donne pas de raison. Il ne répond même pas à notre courrier. Donc le 29 août 2016, n'ayant toujours pas eu de réponse sur le maintien ou non de l'aliment de substitution, je suis allée voir au secrétariat pour avoir la décision. La secrétaire me dit, justement, je viens d'avoir la délibération concernant les repas de cantine déposés par le président à la préfecture, la sous-préfecture de police. Je vais vous la copier. Donc, elle me donne la copie de ce fameux document. Donc, attendez que je le retrouve. Actuellement, sur les trois cantines, les élèves de confession musulmane reçoivent un aliment de remplacement du porc en plat principal. Afin de permettre à chaque enfant de bénéficier d'une alimentation adaptée, il est décidé qu'il ne sera pas donné de suite favorable aux demandes particulières, régime, allergie ou autre. Comme la dernière fois, on nous avait dit qu'on n'avait pas bien compris, on est allé à nouveau voir notre mère avec ce document et on lui a demandé de nous expliquer ce qui est écrit dans cet arrêté. Et elle nous confirme, il y a des enfants musulmans, si c'est écrit, c'est que ça doit être vrai. Donc on enlève l'aliment de substitution, il n'y en aura plus. Et on lui demande pourquoi. C'est comme ça. Il faut savoir que mon maire, sa campagne, dernière campagne municipale, c'était sur le vivre ensemble. Et en plus, ils sont socialistes. Les deux maires qui ont pris cette décision, ce sont deux maires PS. C'est consternant. Bref, donc, suite à ça, j'ai rencontré des parents qui étaient aussi dans mon cas. On a décidé de faire une action commune. On est trois familles. Nous, personnellement, on a fait appel au défenseur des droits. On a porté plainte auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux, auprès du procureur de la République, et on a pris une avocate sur Bordeaux. Là, j'ai vu, j'ai récupéré les menus. Donc, on compte, hein, en septembre 2016, sur la cantine du Zès, on a une, là, les petits pois, c'était les petits pois lardons, deux, le lendemain, c'était saucisse, donc trois, sauté de porc aux olives, quatre, rosette, beurre, cinq, poitrine de porc, six, tomate farcie, 7 repas à base de porc. Donc ça fait presque deux fois par semaine le porc. J'ai regardé les mêmes menus sur Isès l'année d'avant, il n'y en avait que deux fois. Donc est-ce que c'est une vraie volonté de nuire à ces enfants-là? Il faut expliquer. C'est sordide. On vaut mieux que ça en France. Il faut vraiment qu'on se réveille, quoi. J'ai honte qu'on puisse faire ça. Moi, je suis catho. J'étais catho. Mon mari est musulman. Une famille mixte comme la nôtre, on a enlevé le porc de notre alimentation. C'était simple. Et c'est simple. C'est le vivre ensemble. Qu'est-ce que j'ai à mes enfants? Choisissez entre votre père et votre mère, c'est ça qu'on me dit? Non, je refuse ça. Donc moi, venant de La Réunion, dans ma famille, j'ai des Bretons, des Normands, des Chinois, des Indiens, des Africains, j'ai des Antillais, j'ai des Turcs, j'ai des Corses, ma famille, elle est multiple. On a toutes les religions. J'ai des bouddhistes, j'ai des musulmans, j'ai des chrétiens, j'ai des athées. Ma famille, c'est le monde entier. À La Réunion, c'est tout petit pourtant. C'est tout petit, c'est une toute petite île de rien du tout, là où je suis née. Et bien on prévoyait à manger pour celui qui ne mangeait pas de porc, pour celui qui ne mangeait pas de bœuf, celui qui était végétarien. Tous les régimes étaient prévus. Sans que cela coûte plus cher, c'est une question d'organisation, de volonté de vivre avec l'autre. Que les politiques se servent de cet argument pour nous séparer, il faut qu'on se réveille en France, parce que ça va aller très mal. Là, j'ai appris, sur Uzest, Il y a eu un cassoulet. Vous savez ce qu'elles ont fait, les cantinières? Elles ont enlevé les saucisses et le lard pour que les enfants aient au moins les haricots à manger. Vous vous rendez compte? Et on laisse faire ça en France? C'est quoi l'étape suivante? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se réveille. C'est pour ça que je me révolte là aujourd'hui. Et je vais aller jusqu'au bout de ce que la justice et le droit me permettront. Et j'attends que la justice de mon pays me donne raison.
C'était À la cantine, deux histoires racontées par Rémi Dibowski, doit et réalisées par Marie Placet. Elles étaient diffusées pour la première fois le 4 novembre 2016. Pour des nouvelles de ces questions, des personnages que nous avons rencontrés, des diverses initiatives, c'est sur notre site, à la page des Pieds sur Terre, sur le site de France Culture, que vous en trouverez. Merci à Lanka Vural, à Sébastien Durand, à Mao, à Abel et à Paul. C'est François Connac qui s'est occupé de cette rediffusion. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.
Les vues sont imprenables, sont monts et merveilles inespérées. Les perspectives démesurées, je les vois enfin s'allonger. Rochers à pic à tes côtés, reliefs étranges inexplorés. Au loin tout semble illimité. Nous avions atteint des sommets, des hauteurs insoupçonnées. L'oxygène aurait pu nous manquer. Nous voulions encore remonter.